Il est 21h et je remonte mes manches pour vous dire bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver par les temps qui courent. C'est une heure d'entretien avec les artistes dans l'actualité culturelle. Ce soir, Catherine Meurice.
Un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus facilement.
Marie Richeux.
Et c'est que le monde dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Fermez les yeux et essayez d'atteindre un lieu sûr. Voilà comment on vous parle, Catherine Meurice, dans l'album que vous publiez peu de temps après le massacre de Charlie Hebdo, et voilà ce que vous répondez. Le lieu sûr est un chemin creux, au début du printemps, dans la campagne où j'ai grandi. Quelque temps plus tard, vous dessinez une porte au mur de l'appartement urbain qui mène directement aux grands espaces, ceux de la campagne de l'enfance, mais aussi ceux de l'imaginaire, de l'apprentissage de la beauté, peinture, sculpture, fleurs et agneaux naissants. On trouve dans votre dernière bande dessinée des doubles pages habitées d'arbres et de fleurs, aussi émouvantes que ces vieux herbiers que l'on garde longtemps. Et en parlant de garder, votre mère conserve des boutures de l'ensemble des essences présentes dans ce jardin de votre enfance. Ça veut dire qu'il est transportable partout et qu'il peut reprendre vie, y compris pour nous, entre deux couvertures. Bonsoir Catherine Meurice.
Bonsoir.
Les grands espaces, comme la légèreté, sont publiés aux éditions d'Argo. Je dis quelque temps parce que je ne peux pas imaginer le temps qui passe entre le moment où vous écrivez cette scène où on vous demande de penser à un lieu sûr et d'un seul coup vous trouvez peut-être avec surprise un chemin creux comme ça de la campagne d'enfance et puis le temps où finalement vous vous y transportez de manière un peu plus concrète pour les grands espaces. Est-ce que c'est quelque chose qui vient vraiment dans la continuité ?
Oui, c'est en effet, j'avais eu du mal à retrouver ce lieu sûr à l'époque où le psy après l'attentat contre Charlie m'avait demandé de trouver quelque chose qui pouvait me rassurer, un lieu qui pouvait me rassurer. J'étais un peu en état d'amnésie à ce moment-là, donc c'était difficile de trouver quelque chose d'apaisant et j'avais eu cette image quand même qui avait surgi d'un chemin au printemps et j'avais même les odeurs qui étaient revenues. Enfin bon, je me revoyais sur mon vélo, un sourire niais sur le visage, complètement libre là, entre les champs de colza. Mais cette fulgurance avait été vraiment, enfin c'était évidemment, enfin oui, de très courte durée, de fulgurant donc. Et j'en étais restée là, et il a fallu que j'explore un petit peu plus, que je retourne dans ce chemin creux et que je n'y sois pas au présent, mais que j'y sois au passé en fait, que je retourne dans mon enfance. Ça s'est imposé quelques temps après avoir publié La Légèreté. Oui.
Et en même temps, La Légèreté, dans mon souvenir, se termine sur un train, et d'un seul coup vous allez concrètement dans cet endroit-là, vous ne faites pas qu'y penser de manière fulgurante.
Alors c'est pas la fin du livre, c'est peut-être au milieu où en effet penser à ce lieu sûr ne m'a pas vraiment aidée quand j'étais donc en plein choc traumatique après Charlie. J'avais décidé d'y retourner, c'est-à-dire que je retournais chez mes parents qui habitent toujours à la campagne dans les Deux-Sèvres, et j'avais dessiné aussi cette scène où je me baladais seule dans la campagne et je la détresse m'accompagnait quand même à la campagne, c'est-à-dire que le lieu sûr ne m'a pas guéri comme ça en un claquement de doigts, et je me dessinais en train d'enlacer un chêne, et je parlais même à ce chêne, à cet arbre, en disant bon, toi tu restes debout, et si on te tire dessus, tu ne meurs pas, ton écorce en
outil, tu absorbes les balles.
J'avais un autre souvenir m'est revenu plus tard, mais quand j'étais gamine, mon père est originaire de la Meuse, donc cette région qui a été dessinée par la guerre, hein, les vallons, etc., les bois, on trouve beaucoup de choses encore dans les bois. Et je me souviens que j'avais vu enfant un bout d'arbre qui avait complètement enlacé, englouti un fusil. Parce qu'un soldat avait accroché son fusil à une branche. Peut-être était-il mort, probablement d'ailleurs, le pauvre.
Et l'arbre était resté.
Voilà. Et l'arbre avait vraiment absorbé. Et on voyait juste le canon sortir. Donc ce souvenir est revenu après. Et voilà. Donc d'où l'importance des arbres et du symbole d'éternité qui peuvent représenter, ou en tout cas du leurre d'éternité qui peut nous aider à vivre.
Ça nous et pas qu'un leurre d'ailleurs, parce que pour le coup, les grands espaces, l'album se termine vraiment sur les arbres et sur, sinon leur éternité, leur permanence et la manière dont ils peuvent, comme ça, nous permettre d'imaginer que quelque chose de très très vieux nous regarde et donc à la fois renforce et relativise la vie des humains. Il y a quelque chose comme ça sur la fin des grands espaces dans cette scène.
Oui, à la fin des grands espaces, cette fin était très importante pour moi. Je l'avais en tête depuis longtemps. Je m'intéresse à un arbre, norme qui est présent dans le jardin, planqué derrière un gros platane qu'on a surnommé Swan. Et il se trouve que les ormes meurent après 15 ans, enfin dépassent pas les 15 ans en fait en France. Il y a une maladie qui touche pas mal d'arbres, dont les ormes. Et dans le village où j'ai grandi, les ormes ont vraiment disparu de la circulation. Ils ont tous été coupés, on n'en voit plus. Et donc moi, enfant, je n'ai jamais vu d'ormes là où j'ai grandi. Or, il y a pas si longtemps, quand j'ai commencé à écrire Les Grands Espaces, mon père m'a dit, mais viens voir, c'est vraiment tel que je l'écris dans la bande dessinée, ce sont les dernières pages. Il m'a dit, viens voir un truc. Là, j'ai débroussaillé derrière le platane, derrière Swan. Et regarde ce que c'est que ce tronc et dis-moi un peu ce que c'est. Et c'est un orme. Et il a dépassé les 15 ans. Il a même quasiment mon âge. Là, j'ai 38 ans aujourd'hui. Et je trouvais ça absolument merveilleux, parce que mystérieux, d'avoir cet arbre-là qui résiste, on ne sait pas pourquoi, et peut-être qui m'a vu grandir sans me le dire, sans
en se cachant
discrètement, et ça me plaît beaucoup d'imaginer que les arbres peuvent aussi nous observer. Ça me plaît bien de voir que oui, voilà, la contemplation peut être réciproque.
On se considère comme un personnage, mais c'est quand même sa vraie vie qu'on met en cause. Et il faut être honnête aussi, il n'est pas question non plus de tromper. C'est-à-dire que c'est pas pour rigoler. C'est une grammaire qui vient de l'humour, qui vient d'un langage à la base enfantin, que moi, comme pas mal d'autres camarades, j'ai appris dans l'enfance. Mais une fois adulte, on l'utilise pour quelque chose qui rigole plus, même si c'est un langage qui revient du comique. Et c'est là, bon, ça fait partie des nombreux paradoxes de la bande dessinée, il y en a d'autres. In the cold, cold night.
L'intrusion dans la bande dessinée de ce qu'on appelle la mélancolie, hein. C'est-à-dire le moment où on s'aperçoit que la nostalgie ne marchera pas. C'est-à-dire que c'est pas la peine de rêver à l'enfance perdue, au paradis perdu, et à essayer de prolonger ça ad vitam aeternam. Il y a un truc qui s'est cassé, ça se réparera jamais, et on doit travailler et créer là-dedans. Donc il y a des morceaux d'enfance qui se baladent, il y a des traces de l'enfance, et effectivement la bande dessinée, quand on en fait, c'est qu'on a eu une enfance, et on n'a pas d'enfance. Et Baudouin est peut-être une des rares exceptions de quelqu'un qui fait de la bande dessinée en n'en ayant pas lu pendant l'enfance. Mais c'est ça qui rend son travail très étrange et intéressant. Et donc par conséquent, peut-être que c'est une manière de travailler avec des choses qui sont en morceaux, ce qui explique peut-être que la représentation de soi peut être à la fois comique et pas comique, on peut être très jeune et très vieux, on peut être grand et petit et se métamorphoser tout le temps comme si c'était des morceaux de verre, et que selon le morceau qu'on ramasse, on n'a pas la même tête quand on se regarde dedans.
Oh ben, moi je me sens totalement morcelé, hein, ça c'est certain, je suis jamais la même personne d'un jour à l'autre, et au cours d'un même récit, qu'il soit autobiographique, qu'il soit fictionnel, d'ailleurs, c'est exactement la même chose.
Jean-Christophe Menu, avec une archive d'une émission Surpris par la nuit, proposée par Christian Rosset en 2004 sur France Culture, sur la question de l'autobiographie en bande dessinée. Beaucoup de choses sont dites dans cet extrait. Peut-être la première qui me vient là à l'oreille, c'est la question du morcellement. Que quand on commence à travailler sa vie en bande dessinée, ou pas, mais qu'il y a quelque chose du morceau qui s'impose.
Ah oui, oui, véritablement. Moi, je n'osais pas faire de l'autobiographie avant d'écrire La Légèreté, c'est-à-dire avant que ma vie soit complètement en morceaux. Et ça s'est imposé. C'est ça qui m'a rendu moins timide. Donc La Légèreté, c'est vraiment oui, le récit, la reconstruction. Donc après l'attentat, après la catastrophe de Charlie, et après le 7 janvier 2015, je savais plus. Enfin, j'étais complètement en ruine, complètement démolie. Et le je s'est imposé absolument. Mais ça a été, c'était pas évident parce que déjà j'ai bossé longtemps à Charlie, donc le je était absent. Hein. Enfin, on se planquait derrière l'ironie, la satire, etc. Et puis, il n'était pas question de parler de soi. Ça, c'était
même s'il y avait des signatures.
Bien sûr,
c'était
oui.
C'était une forme de je néanmoins.
Exactement, oui, oui. Mais on disait très rarement je. On se représentait rarement, parfois dans les reportages. Mais moi, je n'osais pas. Je me disais, ma vie n'intéresse personne. On s'en fout complètement. Et quand Charlie, enfin l'attentat est arrivé, je savais plus où j'en étais. Il a fallu que je me dessine pour que je me voie en vie, que je me voie bouger sur la page. Il se trouve que j'ai un dessin vif, assez nerveux, qui vient de la presse justement. Et donc j'essaie d'avoir peur de dire je et de me montrer et tout en restant pudique bien sûr et puis en me servant de l'humour. Pour pas que ce soit trop lourd en fait, pour qu'il y ait certainement pas de pathos dans ce que je raconte. Et à la naissance des grands espaces, l'idée du livre a surgi avant Charlie, avant 2015. Et à l'époque, je voulais faire quelque chose de plus critique, de plus je voulais critiquer l'agriculture productiviste, etc. Et le jeu était absent complètement de ce récit. Je voulais faire un bouquin sur les paysages. Je lisais beaucoup François Julien, Gilles Clément, etc.
Et ça passait pas du tout par les souvenirs d'enfance.
Et si, il y avait des souvenirs d'enfance, mais je savais pas quoi faire. Je me disais, il faut pas que je me raconte, donc je vais trouver un subterfuge. Et c'était pas clair du tout. Je m'embourbais dans ce récit sur les paysages. Et l'autobiographie, le récit d'enfance s'est imposé après donc la publication de La Légèreté, où j'ai repris mes notes. Et je me suis dit, non, le paysage doit pas être au premier plan. Ça va être moi, petite fille. Il va encore falloir que je me coltine ce moi-je. j'espère pour la bonne cause. Et puis je vais faire parler aussi les autres, bien sûr, mes parents, ma sœur, les écrivains, les peintres. Voilà, je veux faire entendre d'autres voix qui m'habitent et qui me nourrissent depuis longtemps. Oui.
Bon, il y a quand même quelques petits passages sur la question de l'agriculture, voire du remembrement, voire de la campagne que vous avez connue, avec des bocages, avec des espaces grands, justement, peut-être moins délimités ou autrement délimités. C'est demeuré, ça, Catherine.
Oui, ça demeure. Et puis je pense que dans les prochains livres, je vais reprendre les rênes de la caricature et ça va saigner. On se refait pas. Oui, bien sûr, je pouvais pas m'empêcher de critiquer, mais ça ne vient pas au premier plan. Je voulais vraiment me rester concentrée sur cette idée d'espace clos, le jardin vraiment sain de vieux murs et cette bulle, ce paradis, cet Éden dans lequel j'ai grandi et je joue bien sûr avec les mots, le paradis, le paradou. Je vais du côté de Zola, son roman La Faute de l'abbé Mouret, qui nous dépeint un jardin luxuriant. Je voulais vraiment me concentrer là-dessus, sur cette bulle. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Comment est-ce qu'on rêve sous ces buissons là, et qu'est-ce qui se passe en dehors? Et en effet, quand on franchit le mur du jardin, il y a des très grands espaces qui sont pas toujours merveilleux. Ça sent parfois un peu la chimie. Les haies ont disparu. Le remembrement est passé par là. Ce mot m'a toujours fascinée, gamine, parce que comme je l'écris dans la BD, ça sonne roman du roman. Je trouvais ça très très beau. Puis en fait non, c'est pas drôle du tout. Ça bousille quand même les prés. Et je voulais vraiment aborder toutes ces questions politiques sous l'angle de la poésie, je crois, et de l'humour.
Et aussi tout ça vu depuis l'enfance, et donc évidemment, c'est pas étonnant que remembrement sonne comme roman de roman, parce que petit à petit, les choses, elles prennent sens et elles deviennent, elles se raccordent avec l'utilisation des mots des adultes. On entendait Catherine Meurice dans cet extrait de Surpris par la nuit, l'idée que tout ce qui a trait à la bande dessinée au départ a trait à l'humour et l'enfance, que c'est l'origine. Et qu'ensuite, on se met à utiliser ça pour des choses sérieuse. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez vous aussi? Que finalement ce sont des outils qui changent d'utilisation?
Oui, je le vois comme ça. C'est Jean-Christophe Menu qui dit ça. En effet, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance. Mais c'est drôle, comme c'est vraiment en faisant les livres qu'on se rend compte de ce qu'on a fait. Heureusement qu'on réfléchit pas trop, un petit peu quand même, mais pas trop à ce qu'on dessine au moment où on le dessine. Mais c'est vrai qu'en publiant Les Grands Espaces, je me suis dit, c'est vraiment un récit d'enfance. J'ai vraiment fait un récit sur l'enfance. et mon petit personnage est vraiment vraiment une enfant et elle parle comme une enfant et ça m'a fait tout drôle en fait de, et en même temps ça m'a fait très plaisir de dessiner ça, mais c'était nouveau. Et en effet, l'enfant c'est au moyen de, oui, enfin en effet la bande dessinée
a forcément à voir avec ça.
Pour moi, oui. Il se trouve que gamine, les premières BD que j'ai eues entre les mains, c'était des BD comiques. Astérix, Gottlieb. Je crois que j'ai jamais lu une seule BD sérieuse. Je savais pas ce que c'était. Ça existe. Voilà, le Torgal, etc. Pour moi, c'était très, très exotique. Je comprenais rien. Ça m'intéressait pas. Tous ces mecs poilus et virils, là. Mais, en revanche, Goscinny, Gottlieb, plus tard, Rezer, Bretéché. Je crois que tous les auteurs, très 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 drôle et vraiment des super auteurs qui, dans le sens où ils savent écrire, enfin c'est des génies pour moi, tous ces gens-là m'ont accompagné très tôt et je trouvais ça merveilleux, enfin j'en avais sans doute pas conscience quand j'étais gamine, mais de voir voir le monde à travers ce prisme-là de la franche rigolade, quoi, mais jamais stupide, bien sûr. Il y a chez Goscinny, il y a un travail sur les mots, il y a des jeux de mots, il y a des
mais
références,
c'est très sérieux,
c'est très sérieux, c'est très travaillé. Bretéché aussi, quand on la voit travailler, c'est un labeur extraordinaire. Elle dessine sur des calques, elle dessine les positions, mais à l'infini pour essayer de trouver la bonne. Pétillon, c'était pareil. On parlait souvent du travail. C'est du travail. C'est un travail très sérieux. Et l'élégance du dessinateur, c'est de pas montrer tout ce labeur. C'est de juste emporter le lecteur pour dire, venez, on va bien se marrer. Et on va passer un bon moment. Peut-être on va apprendre des petits trucs à droite à gauche, mais surtout on va rêver. Et je crois que c'est un moment de joie. Enfin, moi, je vois mes bouquins comme ça. J'aime qu'on fasse rire et j'aime bien faire rire aussi. Et voilà, j'aime bien ce moment de joie.
Et est-ce qu'elle est arrivée joyeuse, cette petite fille, sur vos pages, qui vous a surprise et qui était en effet pas... parce qu'on peut aussi parler de d'autres livres où vous n'êtes pas du tout représentée comme ça. C'est une arrivée nouvelle, d'une certaine manière, Catherine Meurice. Son corps d'enfant.
Ce corps d'enfant, oui. Oui, oui, et je pensais un peu à Mafalda en faisant l'album. Sauf que Mafalda a vraiment des réflexions d'adulte. C'est ce qui crée vraiment la drôlerie, ce contraste entre ce tout petit personnage et ses propos adultes. Moi, mon personnage est vraiment un enfant. Il a plutôt des réflexions d'enfant. Et ma voix d'adulte est en voix off. C'est vraiment dans les cartouches. Ça va être aussi dans les bulles des parents ou de ma grande sœur qui était une grande lectrice, ou même de mon nain de jardin en plastique qui est mon confident émancipateur. Bon, voilà, là on me tire vers l'âge adulte. Mais oui, c'est nouveau et j'ai. Et c'est drôle, ce double tout petit là, avec son grand nez. Enfin, je suis coiffée toujours comme ça aujourd'hui, hein, je suis facile à dessiner, mais ce double petit qui déambule, c'était amusant pour moi de constater, après avoir fini cet album, que j'ai été une enfant très contemplative et en tout cas je le suis dans l'album Les Grands Espaces. Et puis j'ai demandé confirmation à mes parents, ils m'ont dit oui, en effet, parfois on te retrouvait assise.
Tu regardais beaucoup.
Oui, ils me trouvaient parfois assise au milieu du pré, comme ça j'étais assise, je regardais, j'écoutais les grillons, je regardais, j'écoutais les coqs qui se répondaient au loin, les chiens de ferme, tout me nourrissait. J'ai déjà utilisé ce verbe, mais je crois que c'est celui qui me vient vraiment à l'esprit, ouais.
Quand, comme vous le racontez dans la bande dessinée, Catherine Meurice, vos parents disent ça va être une chance pour vous, en vous parlant à vous et votre sœur de grandir en pleine nature, on peut dire qu'ils se sont pas trompés et que la bande dessinée montre quelque chose de cet ordre-là.
Oui, en effet, c'est une expression qui arrive au début de l'album. Ma mère dit la campagne sera votre chance. C'est une phrase qu'elle a prononcée il y a pas si longtemps. C'est pas une phrase qu'elle a prononcée quand j'étais petite. Je m'en souviens pas en tout cas. Et c'est quand je l'ai interrogée un peu en écrivant cet album, je lui dis tiens, est-ce que tu peux me parler un peu de la maison, de pourquoi est-ce que vous êtes arrivée là il y a 30 ans, etc. Et elle a prononcé cette phrase que j'ai immédiatement notée dans son dos sans qu'elle s'en aperçoive. Je lui ai chouré cette citation. Que je trouvais très belle parce que le mot chance, j'avais besoin de me le réapproprier, dans le sens où ce mot chance, il avait déserté ma vie en 2015 en fait. On m'a beaucoup dit après l'attentat, t'as eu
la chance,
voilà,
vous êtes arrivé en retard.
Exactement. Comme le dit Philippe Lançon dans la préface de La Légèreté, c'est un mot très mal choisi, c'est juste le hasard. Je suis arrivée par hasard en retard à la conférence de rédaction juste après le passage des terroristes. Et donc le mot chance m'agressait en quelque sorte. Il a fallu le retrouver. Et je l'ai retrouvé en dessinant cet album, Les Grands Espaces. Et je voulais me prouver que oui, la chance existe.
Elle était peut-être pas à l'endroit où on disait qu'elle était tout
exactement.
Le temps.
Exactement. Ouais, exactement.
Lorsque j'allais me promener dans la colline, j'y allais à la suite, et je dis bien à la suite, comme traîné par eux, à la suite de souvenirs de mes lectures, de souvenirs littéraires. Lorsque pendant la semaine et pendant tout le temps de mon travail, j'avais lu, je me reporte par exemple, je vais parler du livre qui m'a été mon compagnon pendant très longtemps, l'Odyssée. Je lisais l'Odyssée. Évidemment, il n'y a pas la mer à Manosque, mais il y avait les collines. Et au-delà de ces collines, un horizon suffisamment bleu pour que je puisse imaginer, étant enfant, qu'au-delà de ces collines se trouvait la mer, comme elle s'y trouve en effet, mais on ne la voit pas. J'allais par conséquent à la recherche des paysages dans lesquels se passaient les drames des personnages qui m'avaient intéressé pendant le courant de la semaine ou pendant le courant du mois. Lorsque je marchais dans un verger d'olivier, Pan était là, Apollon surgissait des herbes. Nausicaa était cachée dans un chemin en train de remonter son linge des lavoirs. Et Ulysse était peut-être dans ses petits villages posés sur le sommet des collines en train de manger chez Alkinoos, n'est-ce pas? Tout ça a été mêlé. Je ne crois pas qu'un jour j'ai pu me promener dans un manosque qui était manosque. C'était un manosque qui était à la fois tout ce qu'on pouvait imaginer.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux et Catherine Meurice.
La voix de Brigitte Fontaine qui fait suite à celle de Jean Giono. Le premier parlait en 1965 et la deuxième chante en 1975. Giono, c'est très beau, dit qu'il n'a jamais vraiment pu se promener dans un manosque entre guillemets réel, mais dans un manosque à la suite de ses lectures. Et dans les grands espaces, Catherine Meurice, il y a toujours des lectures qui traînent. Ou bien dans la manière dont vous truffez votre dessin même de choses impalpables qui nous emmènent sur le chemin de nos propres souvenirs de lecture, ou bien très clairement en mettant en laissant comme ça nonchalamment des couvertures de bouquins dans les mains des personnages. Est-ce que c'est pour dire ce que dit Giono, que ça n'allait pas, ces souvenirs d'enfance, sans souvenirs de texte, que les deux revenaient ensemble?
Oui, exactement. Et c'est vraiment un va-et-vient entre des souvenirs d'enfance et souvenirs de texte. Et pourtant, j'ai pas été une énorme lectrice quand j'étais enfant. Je regardais plus les bouquins que je ne les lisais. C'est un mélange de souvenirs même de sensations d'histoire. Enfin, en écoutant Giono, ce que j'aime dans sa voix et dans ce qu'il raconte, c'est qu'on entend la lumière On passe de Manosque à l'Antiquité grecque, on va sur les îles, et en écoutant Brigitte Fontaine qui parle de verger, il y a ce son presque médiéval qui m'emmène du côté de l'amour courtois de mes lectures de fac, le bestiaire médiéval. Enfin, tout ça se mélange, je suis toujours, je crois, ultra connectée, comme disent les jeunes. Mais
à vos lectures,
aux sensations, aux images aussi. Quand j'évoque par exemple le Moyen Âge, ça m'évoque les enluminures, ces images, les peintures de l'époque, les fresques, autant que les lettres en fait. Et tout ça se mélange en permanence dans ma tête et je vais épuiser régulièrement. Et c'est beau ce verger, j'adore ce mot là, le verger, le titre de la chanson de Brigitte Fontaine. J'ai lu la faute de l'abbé Mouret dans le verger chez mes parents sous un pommier, je me souviens très bien, et je lisais, alors c'était vraiment c'était redondant parce que j'étais sous des arbres qui portaient des fruits et dans les hautes herbes, et je lisais un texte sur donc de Zola sur un paradis, la végétation luxuriante, des tournesols, des prunes, des arbres qui croulaient comme ça sous les fruits gorgés de sucre. Après, il y avait chez Zola une dimension sexuelle qui m'échappait complètement, je pense, et je m'amuse à l'évoquer dans les grands espaces, mais tous ces mots, tous ces vergers, jardins, pour moi ça se connecte immédiatement à la littérature, immédiatement à la peinture, aux images, ça revient vers la littérature, ça revient dans... Il y a comme ça un mélange qui se fait et qui m'habite vraiment, ouais, ouais.
Et qui vient aussi comme ça se mélanger avec le propos de la légèreté qui est en dehors d'un simple récit de reconstruction après un choc, après un traumatisme, l'idée que la manière d'habiter l'art ou d'être en relation avec l'art est d'une puissance folle. Et ça, c'est quelque chose que vous développez de manière théorique en le disant, mais aussi en le faisant. C'est-à-dire que quand apparaît une sorte de fantôme d'un tableau de Roscoe dans une page et que ça nous saute aux yeux, on n'a pas besoin que ce soit dit pour savoir que non seulement ça vous a traversé, mais que probablement ça nous a traversé aussi parce qu'on le reconnaît, et que donc on est tissé de ça. Et je trouve que ce sont deux livres qui vraiment disent ça avec ferveur, quoi. La manière dont la littérature et les images produites par l'art sont une force en nous d'une très très grande puissance.
Oui, en effet, je crois que j'ai fait cette découverte. Pourtant, c'est pas une découverte, hein, on le sait tous, mais
il faut qu'elle passe par nous.
Et voilà, il faut qu'elle passe par nous. Moi, ça s'est passé par moi. Vraiment, j'ai eu besoin d'exprimer en faisant la légèreté. Donc, il a fallu quand même un choc immense pour que je puisse me rendre compte et que j'ose le dire. Enfin, c'est pas que j'ose. J'avais besoin absolument de l'exprimer. Mais en effet, cette vision du Roscoe ou de c'est une vision que j'ai eue très peu de temps après l'attentat, quand je suis allée des amis, c'est ma coloriste en fait qui a fait les grands espaces, c'est m'avait emmené fin janvier 2015 voir l'océan pour essayer de me retaper un petit peu, et j'avais eu une vision de Roscoe ou de ciel. Je regardais le ciel extraordinaire. Et je me disais, c'est une peinture. Enfin, j'étais traversée, transpercée. Il y avait quelque chose une expérience assez inédite pour moi. Et ça a été la vision qui a été à l'origine de l'album La Légèreté. Et c'est l'image de la couverture. Ce sont les premières pages. Je savais pas quel livre j'allais faire. Je savais pas que ça ferait un livre. Mais cette vision-là de ce paysage et cette peinture qui nous traverse, qui nous dit quelque chose, ça s'est imposé. Et ensuite, j'ai suivi ce fil-là. Je suis passée par le syndrome de Stendhal. Après, j'ai mis des mots dessus. Le mot beauté est arrivé. Je me suis accrochée à ce mot. Je me suis dit, voilà, on va aller voir de ce côté-là. Je suis allée à Rome, etc. Mais Et en effet, dans les grands espaces, je reprends un peu cette idée que les arts et la nature nous sont absolument indispensables et notamment dans les grands espaces, je parle de comment les artistes représentent l'art. Il y a un passage au Louvre.
La nature.
Pardon, comment les artistes représentent la nature,
ainsi. Mais ça doit être mêlé.
Ouais.
Il doit y avoir un truc qui se superpose.
Comment les artistes représentent la nature. Et je fais un grand voyage à Paris, au Louvre, où j'arrive gamine et je suis fascinée par les tableaux qui représentent la nature. La nature imaginaire comme la nature réelle. Et je suis subjuguée. Je suis revenue du Louvre avec des souvenirs éblouis de peintures toutes vertes, même des tableaux représentant les plans du château de Versailles. J'adorais ça, cette espèce de vue des jardins. Et puis c'est en faisant les grands espaces bien longtemps après que je me suis dit, mais en fait, c'est cette vision-là encore au musée me disait quelque chose, me parlait et me guidait d'une certaine manière. Je crois que les grands espaces, c'est vraiment un livre qui me permet aussi de me dire d'où je viens, pourquoi est-ce que je suis dessinatrice, pourquoi est-ce que je dessine ça en fait, pourquoi est-ce que les musées, les peintures et la littérature sont aussi présents dans mes bouquins, mais pourquoi est-ce que j'ai réactivé ça après la catastrophe de Charlie, ça m'est venu en aide. J'en ai parlé dans la légèreté. D'où ça sort, d'où ça vient. Et voilà, je voulais partir à la recherche de ça.
Est-ce que c'est pour ça que se déploie comme ça, sans... Tout à l'heure, vous disiez, vous parliez de oser, Catherine Meurice. Parfois des grandes doubles pages où il y a vraiment, on sent que c'est là en plénitude, quoi. C'est d'accord, moi je vais vraiment faire un chant avec des meules de foin et je vais pas faire semblant de le faire et ce sera pas dans une petite case, quoi.
Oui, en effet, quand on parle de bande dessinée, on imagine des cases et souvent la bande dessinée, voilà, il y a beaucoup de cases dans la bande dessinée. Moi, j'arrive pas à tracer des traits, j'arrive pas à tracer des cases. Souvent, c'est le dessin ou la couleur qui vient fermer les cases de mes bandes dessinées mais j'ai besoin de doubles pages où voilà je pousse un peu les murs et je m'étale et j'ai envie de laisser la place au paysage. Souvent les paysages que je dessine s'inspirent de peintres, enfin en tout cas dans les grands espaces il y a une grande double page où mon tout petit personnage enfant est adossé à un tronc contre un tronc et il regarde une forêt, ça c'est inspiré d'une sanguine de Fragonard, ou alors les meules de foin, bon ça c'est vraiment un décor, enfin ça vient de mon enfance, enfin c'est un pré qui existe, un champ qui existe réellement, mais oui j'ai besoin de respirer, oui de bomber un peu le torse et de prendre une profonde inspiration et
ça peut se faire dans des pages, quoi.
Exactement. Ouais. Je suis pas peintre, je sais pas peindre en grand, j'adorerais mais je sais pas, j'ose pas, encore une fois une histoire de oser. Je sais pas si je saurais le faire mais dans la bande dessinée, j'essaie de repousser les cases. Ouais, de faire de la place au dessin parce que je ne sais faire que ça, en fait. Je suis vraiment dessinatrice pure et dure, je ne sais rien faire d'autre.
Et d'ailleurs, on sent un grand plaisir dans ces doubles pages, mais aussi, par exemple, dans toutes les fleurs qui sont dessinées avec précision. Je parlais tout à l'heure d'herbier, mais on peut aussi penser à des vieux livres scientifiques qui représentent chacune des espèces. Ça, c'est très fort aussi, c'est très présent. C'est pour ça que j'évoquais les boutures de votre mère, parce qu'on sent qu'il y a presque... C'est comme si vous nous filiez les boutures d'un grand jardin et à nous de le refaire, quoi.
Oui, ça c'est formidable. Si vous l'avez lu comme ça, c'est vraiment super. Oui, il y avait pour moi un réel plaisir à ralentir un petit peu mon dessin parce que je dessine en courant depuis 15 ans. J'ai surtout bossé dans la presse. Et là, se poser devant une planche botanique, voilà, qui j'adore ces vieux bouquins, enfin ces illustrations. Naturaliste là où on détaille les plantes, les pétales, etc. Il y a des planches anciennes absolument magnifiques et j'ai toujours aimé ça et là j'étais heureuse de pouvoir le reproduire un petit peu dans cet album. Je fais une petite place à ce dessin soigné de plantes et en plus enfin c'est très utile de de passer par ça. C'est un bon exercice. De la même manière que c'est un bon exercice de dessiner d'après les peintres ou de dessiner d'après l'antique, comme le faisaient les classiques, c'est toujours utile de regarder de près les plantes. Ça
introduit différents registres de votre dessin parce que votre petite fille, elle continue d'être dessinée de manière très très vive avec quatre traits pour ses bras et puis cette espèce de corps toujours très en mouvement. Et donc, on la regarde pas avec la même vitesse. Elle passe très vite, alors que ces plantes-là, elles sont, encore une fois, tout à l'heure, vous parliez du temps, de la végétation, des arbres, des fleurs. Ben, ce sont deux sortes de temporalité aussi que vous introduisez dans cette bande dessinée.
Oui, exactement. Et je laisse le lecteur libre de regarder comme il l'entend. Et j'aime bien inviter la caricature dans le dessin plus grandiose entre guillemets, dans le sens où je m'inspire des peintures, des beaux-arts. J'aime bien ce mélange, ce qui signifie sans doute que j'ai pas très envie de me prendre au sérieux, certes, mais aussi que je crois que ça dit que la grande peinture, la belle peinture, c'est aussi important que la caricature, aussi utile qu'un.
Ça peut cohabiter.
Ça peut cohabiter, exactement. Ça peut cohabiter, oui.
Tout le monde l'a éprouvé. La beauté compense les souffrances que la perte de la réalité entraîne. Et elle ne les compense pas simplement par du rêve. Par le fait, disons plutôt, quand c'est vraiment la très grande expérience de la beauté, elle les compense plutôt par une simplification intérieure de notre rapport à nous-mêmes qui nous fait accepter plus facilement ce dont nous souffrons sur le chemin et aussi mieux lire les formes simples de l'existence des choses et des êtres.
C'est le poète Yves Bonnefoy en 2005 qui parle de la beauté qui permet de mieux lire les formes simples des existences, des choses et des êtres. Il ne dit pas que cela. Catherine Meurice, on a évoqué rapidement le fait que c'est un des grands sujets de la légèreté qui se poursuit dans les grands espaces. Mais si on s'attarde là-dessus, vous diriez que ça a été une manière d'aller contre le morcellement? Que la rencontre avec la beauté ou que le fait de décider que l'attention serait portée là-dessus, c'était de cet ordre-là?
Oui, quand j'écrivais La légèreté, j'avais en tête qu'il fallait que je m'éloigne du chaos. Le chaos, c'était le 7 janvier, et il fallait que j'aille vers la beauté, donc vers la douceur, etc. Je m'attendais pas du tout, j'avais oublié probablement que le chaos était aussi présent dans la beauté. Et ça, je le découvre à Rome, dans les pages de La légèreté, où je me dessine face au Caravage, et je parle du Caravage qui est vraiment le peintre de la lumière et aussi des ténèbres. Et le Caravage se balade dans La légèreté, on le retrouve dans les grands espaces. J'avais besoin de tourner autour de ce chaos, de le traverser, mais de le traverser en compagnie des peintres et dans la peinture. Dans les grands espaces, il y a encore cette notion de chaos, et je crois que cette fois-ci, je me tourne vers la nature parce qu'il y a dans la nature une harmonie qui n'est pas le chaos, justement. Je crois qu'on a des vies chaotiques et que la nature permet un apaisement et qu'il y a je crois que je cherchais un ordre, après le morcellement, un ordre qui est celui de la nature. Et si je m'intéresse aux peintres romantiques, c'était inconscient quand j'étais émo, mais finalement, c'est pas pour rien. C'est que les peintres romantiques suivent un ordre qui est celui de la nature, où l'infini est présent dans la nature, où la nature
face aux ruines, hein, d'ailleurs, souvent.
Exactement.
Il y a vraiment la construction de l'homme et l'individu face à la permanence.
Exactement. Oui. Et la nature est toujours là. L'homme, les empires passent. L'homme s'adapte et c'est la poétique des ruines, comme le disait Diderot. Et donc j'avais besoin d'aller vers ça, de regarder cette harmonie, de voir ce qu'elle me disait, qu'est-ce qu'elle disait de mon enfance et qu'est-ce qu'elle me dit aujourd'hui.
Et pourtant, vous n'épargnez pas non plus les murs, c'est-à-dire que vous les regardez quand même. Le premier, c'est le mur de l'appartement urbain sur lequel vous dessinez une porte et qui vous permet de sortir. Puis les murs d'après, c'est les murs en ruine qui vont être réhabilités par votre père, par vos parents. Et puis les murs, c'est aussi les murs de cette maison qui tient debout, puis d'autres maisons. Enfin, les murs sont pas non plus que des ruines dans les grands espaces.
Exactement, dans les grands espaces, on a une une maison qui se reconstruit. Donc voilà, dans la légèreté, c'était une dessinatrice qui se reconstruisait. Je parle de moi à la troisième personne, c'est terrible.
Ah bah vous écrivez des livres, vous avez raison de le faire.
Mais dans les grands espaces, oui, les murs à la fois se poussent, servent d'appui. Je parle de mon amour des vieilles pierres déjà quand j'étais enfant. Je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite adopté les vieilles pierres, ces espèces de visages ridés qu'on voit dans la pierre. Il se trouve que dans les Deux-Sèvres, c'est de la pierre calcaire blonde absolument magnifique et qui a été très bien taillée par les hommes il y a très longtemps. Il y a des murs d'une régularité mais hallucinante, c'est d'une beauté folle. Et j'aime ça, et j'aime la chaleur qui se dégage de ces pierres lors des journées d'été. J'aime bien regarder les insectes qui courent dessus. Enfin, il y a une vie sur ces ruines, en fait. Il y a de la poussière, il y a des choses. Des hommes sont venus, ont posé ces pierres il y a super longtemps. Les murs s'écroulent. Mon père adore les remonter. Ça, c'est son hobby. Il y en a qui font du sudoku. Mon père, lui, il adore.
Il remonte les murs.
Il remonte les murs. À chaque fois, il a 71 ans, là, je lui dis, mais papa, tu vas te faire mal au dos. Non, 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 mais j'adore ça. Non, non, ça entretient. Non, non, je crois qu'il pousse les murs en secret pour qu'ils s'écroulent. Il les remonte après. Et j'avais retrouvé ça, j'avais beaucoup aimé retrouver cet amour des vieilles pierres chez Pierre Loti, justement, que je cite dans la bande dessinée, qui en parle mieux que moi. Et ça, c'est toujours bien de faire appel aux écrivains qui sont quand même plus doué que nous pour s'exprimer, c'est utile.
Bon, c'est votre point de vue, mais on va l'écouter quand même.
Je ne sais plus bien à quelle époque je fondais mon musée qui m'occupa si longtemps. Un peu au-dessus de la chambre de ma grand-tante Berthe était un petit galta isolé dont j'avais pris possession complète. Le charme de ce lieu lui venait de sa fenêtre, donnant aussi de très haut sur le couchant, sur les vieux arbres du rempart, sur les prairies lointaines, où des points roux, semés çà et là au milieu du vert uniforme, indiquaient des bœufs et des vaches, des troupeaux errants. J'avais obtenu qu'on me fît tapisser ce galta d'un papier chamois rosé qui y est encore, qu'on m'y plaça des étagères, des vitrines. J'y installais mes papillons, qui me semblaient des spécimens très précieux. J'y rangeais des nids d'oiseaux trouvés dans les bois de la Limoise, des coquilles ramassées sur les plages de Lille, et d'autres, des colonies, rapportées autrefois par des parents inconnus, et dénichées au grenier, au fond de vieux coffres où elles sommeillaient depuis des années sous de la poussière. Dans ce domaine, je passais des heures seul, tranquille, en contemplation devant des nacres exotiques, rêvant au pays d'où elles étaient venues, imaginant d'étranges rivages. Un bon vieux grand-oncle, parent éloigné, mais qui m'aimait bien, encourageait ses amusements. Il était médecin, et ayant dans sa jeunesse longtemps habité la côte d'Afrique, il possédait un cabinet d'histoire naturelle plus remarquable que bien des musées de ville. D'étonnantes choses étaient là, qui me captivaient. Des coquilles rares et singulières, des amulettes, des armes encore imprégnées de ces senteurs exotiques dont je me suis saturé plus tard, d'introuvables papillons sous des vitres.
Romain de Bec de Lièvre lit la langue de Pierre Loti, puisque vous disiez qu'elle parlait mieux que vous, Catherine Meurice. C'est un extrait du roman d'un enfant. Le passage consacré au petit musée qui lui occupait tant de temps. Et c'est un livre que vous tenez, que votre sœur tient dans cette pièce où vous avez vous aussi votre propre musée. C'est comme une sorte de... Vous parlez tout à l'heure des murs, Catherine Meurice, mais on pourrait dire que c'est comme la pièce centrale de la maison qu'est cette bande dessinée, les grands espaces, ce musée-là. Pourtant, ce n'est pas la nature dont vous parliez, ce ne sont pas les arbres. Qu'est-ce que c'est que cet endroit qui n'est pas exactement secret, mais qui est bien à L2?
Quand je suis arrivée à 7 ans dans cette vieille ferme que mes parents ont acheté une bouchée de pain, c'était vraiment un champ de ruines. Et j'ai d'abord vu la terre, la poussière, les pierres, les toiles d'araignée, les souris. J'ai adoré ça, hein, mais j'ai pas vu les arbres. Il n'y avait pas d'arbres centenaires. La maison était vraiment posée sur un caillou. Et avec ma sœur, on a commencé à jouer comme tous les enfants. Il fallait bien se débrouiller pendant que mon père et ma mère commençaient le chantier qui a duré des années. Et en retournant la terre, on trouvait des pierres extraordinaires, des fossiles, des clous en fer forgé absolument magnifiques, des fers à cheval, on trouvait des coquilles d'œufs, etc. Et tout ça nous amusait. On avait spontanément envie de les adopter, donc on a tout récolté. Et puis on a créé un musée, donc on a mis tout ça sur des étagères. Je sais pas d'où nous venait l'idée du musée d'ailleurs, parce qu'à l'époque on connaissait pas le Louvre on est né à Niort, donc il y avait pas vraiment de musée à Niort, donc je sais pas pourquoi on a mis ça sur des étagères. On n'avait pas de belles vitrines comme Pierre Loti, hein, mais voilà, donc il y avait des nids d'oiseaux, des bouses séchées parce qu'on devait nettoyer les étables, etc. avant que mon père puisse retaper la maison. Il y avait des tas de crottes mais qui devaient dater du Moyen Âge. Enfin, en tout cas, on rêvait, on se disait mais c'est pas possible. Et tout ça, c'était la présence des animaux il y a très longtemps, la présence de la mer il y a encore plus longtemps, la présence des hommes, des paysans qui étaient là avant nous. Enfin, tout ça était extrêmement mystérieux et formidable, et on s'inventait des histoires, et surtout on contemplait, une fois de plus, on adorait regarder ces objets-là, des coquilles Saint-Jacques fossilisées. Il se trouve que la ferme était sur un des circuits de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc il y avait des coquilles Saint-Jacques, à la fois fossilisé mais aussi sculpté un peu partout, mais comme dans tout le village. Hein. Une fleur de lys, sculptée à un moment donné sur une pierre aussi. Enfin, et tout ça, là j'en parle avec des yeux écarquillés, mais en fait quand on était enfant, tout ça était très naturel. Enfin, c'était des trésors et soudain on les adoptait et ça faisait partie de nous. Et mon père avait acheté c'était à la mode à l'époque, je me demande si c'est pas interdit aujourd'hui, mais il avait acheté une poêle, les poêles qui permettent de, je sais plus comment ça s'appelle, et je la dessine dans la...
Ah oui, de sonder là.
Pour sonder le sol. Et on avait passé vraiment toute la maison en peigne fin, et on avait retourné, mais tout le sol, parce que ça sonnait partout. On se disait, mais il y a forcément des pièces d'or dans ces maisons, planquées dans les vieilles cheminées, etc. Et en fait, c'était toujours des clous. Donc on a une collection de clous extraordinaire, ma mère ronchonnant, mais vous êtes en train de foutre en l'air. La maison est déjà en ruine, vous êtes en train de la remettre en ruine. Et on a beaucoup ri. Enfin, j'ai des souvenirs vraiment très joyeux dans ce chantier là où on jouait au barbier avec ma sœur dans les tas de sable qui servaient à faire le ciment, et au son de la bétonnière. Et c'était un jeu de construction. On était dans un jeu de construction immense. Et je crois que ça m'a beaucoup inspiré, ouais.
Ça vous permet de faire vivre dans cette bande dessinée, Catherine Meurice, la puissance imaginaire de deux sœurs. Ça vous permet aussi de mettre en scène le lien puissant de deux sœurs. Et ça vous permet de vous tourner vers ce qui demeure. Parce que c'est assez fou à quel point cette bande dessinée ne cesse de parler de ce qui reste, quoi. Les arbres, la nature, les murs, une forme de conservation par ce musée-là. Est-ce que c'est un hasard de se tourner vers tout ça quand dans votre vie, brutalement, sont partis des êtres?
Non, c'est pas du tout un hasard. Non. Quand j'ai écrit Les Grands Espaces, j'avais tout Charlie en tête et j'étais obsédée par la perte. Et d'ailleurs, j'ai veillé quand même à ce que ce soit pas trop présent dans l'album. Je voulais
ça
pas.
Ça ne l'est pas.
Tant mieux. Je voulais pas qu'il y ait de tristesse. Je voulais justement qu'il y ait de la légèreté, celle qui était annoncée
par
le précédent album. Mais bien sûr, je pensais même certains passages que j'ai écrits vraiment très émus, parce que je me souvenais de la voix de mes copains, je me souvenais de ce qu'ils aimaient, je me souvenais que les pages que je faisais dans Charlie sur l'agriculture faisaient tordre de rire Volinsky et Charles, parce que Volinsky, qui habitait à Saint-Germain-des-Prés, je crois que n'avait jamais dû effleurer un tracteur de sa vie. Et en effet, la perte est très présente dans ce livre, en tout cas pour moi, je crois que ça s'illustre de manière plus évidente au moment où je suis au Louvre, dans la Grande Galerie du Louvre, enfant avec ma sœur, et qu'on est face au tableau de Hubert Robert, qui est un peintre que j'adorais gamine, parce qu'il représentait la nature imaginaire, il représente le Louvre en ruine avec la nature, les plantes, le lierre qui viennent comme ça envahir les galeries où on voit encore beaucoup de petits personnages, et il y a surtout des personnages de peintres et de copistes qui sont présents dans ces tableaux, comme si après le désastre les artistes demeuraient. Donc ça c'est une lecture que j'ai faite d'Hubert Robert bien après l'enfance, en fait, en écrivant ce livre, et face à ces tableaux je mets dans la bouche de ma sœur les propos de Diderot dont on parlait tout à l'heure, la poétique des ruines, et qui dit en gros que quand on est devant ces tableaux d'Hubert Robert, on se souvient de ce qu'on a perdu. Et ma sœur me demande, mais qu'est-ce que tu as perdu, toi? Et puis moi, j'ai 7 ans, je lui réponds, mais j'ai rien perdu. Et quand j'ai écrit cette scène, je pensais à tout ce que j'ai perdu après, 20 ans plus tard. Et il se trouve que cette scène, quand je suis enfant, je dis ça à ma sœur dans la Grande Galerie, face au Caravage, face à la Diseuse de Bonaventure. Et ça, c'est un tableau qui se retrouve dans La Légèreté, que je suis allée voir avec ma sœur, plus âgée donc, et Sigolène Vincent, qui est rescapée aussi de l'attentat et écrivain. Et on avait besoin de voir ce tableau, et pour nous, Caravage est précieux. Donc oui, il y a plein de résonances entre les deux livres, et je me sers des artistes et de la peinture pour adoucir cette perte, en fait, pour pas qu'elle soit trop dure, notamment pour le lecteur, oui, parce que ça c'est mon affaire, en fait, c'est mon histoire. Je raconte mon histoire dans le livre, mais tout ce qui est vraiment très lourd, je garde pour moi, certainement pas le faire peser sur les épaules du lecteur.
Oui. Ça veut dire que c'était plus facile de mettre le surgissement de cette immense violence un peu à distance pour les grands espaces, plus facile que pour La Légèreté où oui. C'est beaucoup plus proche, le point brûlant est beaucoup plus proche.
Oui, oui, bien sûr. Et la distance, elle est dans le récit d'enfance, tout simplement. Il fallait que j'aille, je retourne en 1987 pour m'éloigner de cette catastrophe. Oui, oui, oui. Oui, oui,
on est. Et ça marche?
Oui, j'ai l'impression que ça marche. Oui, oui, oui. Parce que maintenant, donc le choc est éloigné et il me reste les souvenirs heureux. Je suis très heureuse maintenant. J'ai l'impression que je peux m'autoriser aujourd'hui à parler de mes copains de Charlie disparus avec joie. Voilà, le chagrin sera toujours là, hein, mais maintenant je peux rire en me souvenant d'Honoré, de Tignoux, de Charles. Vraiment, j'ai envie de rire pour me souvenir de leur propre rire, et voilà, cette joie est revenue sans que je me sente coupable d'être encore en vie, etc. Voilà, donc La Légèreté, comme Les grands espaces, m'aide bien sûr à prendre.
Est une reconquête de ça, hein. Oui. On parlait de la manière de reconquérir un mot chance qui vous a été pesamment imposé. Et ben la joie dans La Légèreté, je pense aussi à une scène où vous vous retrouvez à taguer dans la nuit un visage manquant sur un mur,
le visage d'Honoré.
On sent que c'est une reconquête qui est une reconquête qui passe aussi par des fondements de joie qui sont peut-être des fondements de joie enfantine, et c'est pas un hasard que ça repasse par là.
Exactement. Oui, dans La Légèreté, je mets en scène Sigolène Vincent, Hélène, Honoré, donc la fille d'Honoré, et moi-même, faisant un pochoir sur un mur parce que quelqu'un avait tagué les visages des dessinateurs. Il manquait Honoré, on trouvait ça absolument atroce, donc on est allé taguer le visage du père d'Hélène. On s'amuse beaucoup à diffuser les dessins d'Honoré dans Paris, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Le trait, on sait quand on se rend compte que c'est la même chose que l'écriture. Parce que vous savez, quand on est gosse, on cherche des signatures, on cherche des écritures, on copie l'écriture de la copine qui écrit mieux, etc., etc. Et on fait surtout des signatures. Et puis, moi en tout cas, mais je crois que les autres c'est pareil, quand je faisais des dessins, je savais pas, je pompais un peu sur un tel, jusqu'au moment où, quand j'étais un pilote d'ailleurs, j'ai commencé à faire des pages pour moi toute seule, sans les montrer à Goscinny à l'époque. Et jusqu'au jour où j'avais pas fait ma page et j'ai montré ça, et là, à ce moment-là, c'était un trait différent parce que je dessinais comme j'écrivais, avec le même jeté. Je sais pas comment vous expliquer. Et quand on a trouvé ça, on a vraiment franchi une étape.
On finit avec une archive de Claire Bretécher dans l'émission « Quand je serai grand » en 2004 sur France Inter. Catherine Meurice, quand on a trouvé ça, on a franchi une étape. Est-ce qu'avec ces deux derniers albums, vous diriez que du strict point de vue du trait, de votre dessin, de votre art, vous avez franchi une étape?
Oui, je crois. Oui, oui, en effet. Oui, oui. Et maintenant, c'est le vertige. Qu'est-ce que je vais faire? Non, 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 en effet, ça, c'est une étape. Et l'envie de continuer à dessiner est là, toujours aussi grande, encore plus grande peut-être. Ouais.
Ce que dit Bretécher est assez intéressant, c'est que cette étape, elle réside dans le fait de faire correspondre la fluidité de l'écriture avec un trait. Elle dit, pour elle, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais que le moment où elle s'est trouvée, c'est un moment où elle s'est mise à dessiner comme ce serait d'écrire.
Oui, et je partage ça, j'admire profondément... Bretécher et en effet moi ça m'est arrivé étudiante, en fait j'étais étudiante à l'école Estienne et je faisais des gouaches, des machins, des trucs, de la peinture et j'ai, par ailleurs je faisais des petits croquis dans mes carnets et un jour devant un jury de professionnels, il y a des dessinateurs pros donc qui m'ont dit bon tes gouaches tout le monde s'en, enfin on s'en fout, c'est pas du tout intéressant, en revanche là ton petit croquis un peu à la réserve là à la plume, mais c'est ça, c'est toi en fait ça. Et c'était un croquis vraiment où l'écriture se mêlait au dessin et j'essayais la plume, donc il y avait des taches d'encre et ça a été une révélation et je me suis ensuite retrouvée dans tous ces dessinateurs absolument géniaux, Bretécher, Wolinski, Rezer, qui écrivent comme ils dessinent, qui dessinent comme ils écrivent et l'écriture, leur écriture n'est pas qu'une, comment dire, une belle écriture, une belle calligraphie. C'est en plus un propos absolument génial. Enfin, c'est le fond comme la forme sont absolument géniaux. Et cette famille-là, on l'a retrouvée à Charlie Hebdo, en fait, de ces GB, Cabu, tous ces grands mecs super qui savaient
écrire voilà, le monde écrire, en dessinant.
Exactement,
en fait.
Exactement. Ouais, ouais. Et avec humour. Bien
et,
sûr.
Et vous dites le vertige, c'est de savoir ce que je vais faire maintenant, Catherine Meurice, mais vous avez des envies, vous avez des idées, vous êtes déjà au travail?
Oui, 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 j'ai trois projets en tête très différents, dont un qui concerne le Japon, parce que j'étais en résidence à la Villa Kujoyama au Japon au printemps dernier. Voilà, en 2015, je pouvais pas aller plus loin que l'Italie, plus loin que Rome, et puis là, je suis allée beaucoup plus loin pour prendre de la distance encore et... Voilà, il faut que je digère ça, que j'en fasse quelque chose. Et j'ai d'autres idées en tête. Et à un moment donné, il y a un projet qui va s'imposer, et tout va se dérouler, j'espère, dans la joie une fois de plus. Mais là, je prends mon temps. Quand on sort un album, on est rarement, on est fatigué d'une certaine manière. Et il faut laisser le temps à l'album de vivre sa vie. Et ensuite, dans quelques temps, on reprend un peu les crayons et l'écriture et le dessin.
Merci beaucoup, Catherine Merci. Meurice. Les grands espaces et la légèreté dont on a parlé sont publiés aux éditions d'Argo.
Qui es-tu, toi ? J'entends ton chant. Chant de la
Au son ce soir, c'était Manu Couturier, à la réalisation Lise-Marie Barré. Catherine Meurice est morte de rire, du coup c'est difficile de faire un générique sérieux. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture, quand vous voulez sur franceculture.fr et en podcast, parce que vous pouvez évidemment vous abonner au podcast de l'émission. Un grand merci à Anne Toscan-Viudès, à Marianne Chasseur, Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre et Lou Quevauvillier qui m'aide à penser et préparer cette émission tous les jours. Très belle soirée sur France Culture.